48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bienvenue au 71e MAG aujourd'hui, donc, et oui, déjà 71 MAG. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler artistique avec David Tsué qui vient nous présenter son exposition qui a lieu actuellement jusqu'au 6 juin à la Maison Consulaire. David Tsué et sa compagne Julie Selbiongo qui sont des artistes plasticiens et qui viennent récemment de s'installer en Lozère. Ils nous expliqueront pourquoi, quel est le type de travail qu'ils mènent. Qui sont en train de mener. Et puis nous aurons dans une deuxième partie donc une rencontre avec un reporter photographe assez connu sur le département puisqu'il est présent depuis 2004 qui s'appelle Bruno Calandini et son compagnon de voyage d'expérimentation actuellement Thierry Bousquet qui lui travaille au comité départemental du tourisme. Nous expliquerons un petit peu ce qu'ils font aujourd'hui, un travail très particulier puisqu'ils ont développé tout un concept autour du drone. Voilà, pas celui qui bombarde les petits villages, mais plutôt le drone qui permet de faire des repérages photographiques et en vidéo. Voilà, donc tout de suite, on va démarrer avec David Tsué. Et peut-être déjà, David, nous expliquer que vous avez travaillé dans le cadre de la Mostra, donc cet événement, ce lèche-vitrine d'art contemporain. Et qu'est-ce que ça vous a amené? Et puis, vers quoi aujourd'hui vous dirigez?
C'était un petit peu sortir de l'effet vitrine de la Mostra, puisque la Mostra, comme vous le savez, on investit des magasins, donc c'est une expérience très intéressante.
Un lèche-vitrine contemporain.
Voilà, tout à fait. Donc avec tous ces enjeux particuliers et aussi ces limites, dans le sens où les gens ne peuvent pas tourner autour des œuvres, ne peuvent pas s'en approcher, question d'éclairage, plein de choses comme ça, ouais. Qui faisait qu'on avait envie de présenter aussi nos productions collectives, puisque Julie ne participait pas à la Mostra. Donc là, c'était l'occasion de regarder où on en était tous les deux dans nos boulots, mmh. et puis de les mettre en jeu tous les deux dans l'espace de la Maison Consulaire.
D'accord. Mais du coup, pour les gens qui ont un petit peu suivi la Mostra, quelle était l'œuvre que vous avez proposée cette année? Ou est-ce qu'elle était, histoire juste d'identifier un petit peu?
Alors ça se situait à la fois dans le magasin Optique 2000.
Oui.
Donc là, c'était un petit peu spécial. C'était un geste qui était fait pour le magasin, puisque c'était pas un magasin désaffecté. Mm-hmm. C'était en rapport à l'histoire de l'optique, et puisque j'ai un questionnement qui vient beaucoup de l'image. Mm-hmm. Et donc là, j'ai fait un geste dans les vitrines de ce magasin. Sinon, c'était dans le magasin TUF, qui se situait Place au Beurre.
TUF, Place au Beurre.
Voilà,
très bien.
C'est ça.
D'accord. Et donc là, vous nous proposez donc maintenant, depuis le 16 mai, une expo à la Maison Consulaire.
Oui.
Voilà, vous pouvez nous en parler un petit peu plus. Vous n'êtes pas tout seul, donc. Hein ?
Non, je ne suis pas tout seul. Alors, on confronte nos deux pratiques. On a essayé de trouver des liens. On a appelé ça ligne de partage pour ça, à la fois ce qui pouvait séparer et rapprocher nos deux pratiques. Mm-hmm. Puisque Julie a un questionnement qui est basé sur la peinture et le mien vient davantage de l'image photographique.
D'accord.
Sachant que ni l'un ni l'autre ne proposons de tableaux
ou de photos.
On en a mis, en fait, quelques-unes pour parce qu'on accueille aussi des scolaires. Donc c'est plus à vertu pédagogique pour expliquer un peu d'où vient le travail, quoi. Et sinon, on pratique plutôt en volume.
D'accord. Et donc du coup, en quoi consisterait votre travail sur l'usage de la peinture, peut-être? Je ne suis pas en face du micro, je me fais gronder par Nico. En fait, il n'était pas mort, il est toujours là.
J'essaie de régler les petits problèmes techniques.
Il est là, c'est pour ça que j'avais pensé à la clochette. Mais là, c'est que juste, il essaye de réparer son bug. Donc, il est un peu absent, mais il est quand même avec nous.
Donc, pour la peinture, oui. C'est plus le travail de Julie. Mais
voilà.
Alors, c'est un questionnement qu'elle peut avoir. En fait, Julie, elle s'est posé beaucoup de questions en pratiquant la peinture sur toile.
Oui.
Et aujourd'hui, elle va isoler différents éléments de des questionnements qui pouvaient susciter sa production. C'est-à-dire, elle peut interroger le diaphane, la transparence, elle peut interroger le geste du coup de pinceau dans des productions qui sont différentes. Et puis qui vont aussi se déplacer hors du mur ou se déplacer au sol, devenir plus sculptural.
Avec une thématique particulière?
Aujourd'hui, c'était... depuis quelques temps, elle travaille beaucoup le bleu, parce que c'est une couleur qui l'intéresse pour ce que ça peut questionner de limites le bleu, le ciel, la mer, enfin c'est sous, ça questionne beaucoup le contour, mm-hmm. et donc ça, ça l'intéresse pas mal. Donc aujourd'hui, oui, elle travaille beaucoup cette couleur, voilà.
D'accord. Donc, et vous, votre travail, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, vos matières, vos supports, votre...
Alors moi, mes matières sont très variées. Voilà. C'est vraiment un questionnement presque sur le pictural en général, mm-hmm. que je vais chercher dans tous les corps de métier, dans tout mon environnement. Il y a une question aussi sur les valeurs des objets. Et donc, là, pour la maison consulaire, j'ai récolté des objets qui n'étaient pas très loin, qui étaient usagés. Il y a un banc public. Il y a une pierre qui vient d'une carrière pas loin à Chanac. Il y a beaucoup d'objets comme ça et les barrières d'un Intermarché qui étaient cassées. C'est des objets sur lesquels je vais les mettre en relation avec des matières improbables, souvent issues du monde alimentaire, mais pas que. Et c'est un questionnement sur, je pense, le lien de l'image et du désir. C'est vraiment un questionnement sur notre lien à l'image aujourd'hui.
D'accord.
Son lien à la consommation, entre autres, et beaucoup de choses comme ça.
J'allais vous demander, effectivement, qu'est-ce qui fait que vous choisissiez un objet plutôt qu'un autre, justement, qu'est-ce qui sur ce que vous avez choisi, en tout cas jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a guidé vos...
Il y a un rapport de taille au corps, souvent. Il y a un rapport... Ça dépend, en fait. C'est une rencontre, c'est quelque chose qu'on fait... se balader dans son territoire, le découvrir. Et donc la pierre calcaire, c'était toutes ces falaises, évidemment, et la géologie particulière de la Lozère. Voilà, il y a beaucoup d'objets comme ça que je peux rencontrer. J'ai travaillé avec des tors à béton que j'ai rencontrés chez un ferrailleur et que j'ai lié par des aimants, en fait, pour dessiner, au final, dans l'espace. Puisque là, je rencontrais des lignes et il manquait juste les points. Donc, voilà, c'est plus en fait une réflexion qui va guider plusieurs actes qui sont complètement hétérogènes et les choses évoluent beaucoup d'une production à l'autre sans qu'il y ait forcément de choses très fixes, de médiums privilégiés, oui. Excepté la cire, la paraffine qu'on utilise beaucoup, Julie et moi, parce que c'est un élément très très plastique. D'accord. Qui s'utilise liquide ou solide ou dans beaucoup d'états différents.
D'accord, très bien. Bon, donc ça, c'était pour cette expo. Voyez quelque chose à rajouter par rapport particulièrement sur cette expo ?
Sur cette expo, oui, c'est une manière de se présenter à la ville. Et puis, ouais. C'est une manière aussi, ça nous a permis de tisser des contacts avec à la fois les commerçants et les industriels de la ville. Mm-hmm. Donc, si je peux me permettre de remercier chaleureusement Monsieur Alain, qui tient la miroiterie Lozère et qui m'a fourni beaucoup de verres pour travailler.
Et d'accord, donc vous travaillez local, ça c'est chouette. Hein.
On aime beaucoup, oui. Et on fonde une association dans ce but-là, d'ailleurs, voilà. Pour continuer dans cette voie.
Oui, peut-être expliquer pourquoi vous voulez créer une association, mais voilà. C'est ça le direct. Alors,
rebonjour.
Hein. Rebonjour. Je n'étais pas parti, mais j'étais un peu absent.
Je vais plus parler maintenant, à bientôt les gens.
Donc le but, oui, en fait, fonder cette association, c'est donc avec Julie et puis également William Fage, qui est un artiste déjà présent sur la ville. C'est simplement intervenir à la fois avec des artisans, à la fois avec des industriels, solliciter des partenariats inédits et improbables avec des artistes pour créer des œuvres et les installer sur le parcours du patrimoine de la ville. Donc on a fondé l'association dans ce but-là.
Qui s'appelle Arte Lozera.
Alors Arte Lozera, ouais. Voilà, et qui est surtout la base associative d'un collectif. Voilà, parce qu'on tient à agir les premières années sur la base de nos travaux respectifs. Et voilà, susciter des rencontres. Et puis surtout, en fait, essayer d'implanter les arts visuels, l'art contemporain, dans la ville de manière plus régulière et dans l'expérience de la ville que peuvent avoir les
citoyens.
Parce
que votre lecture sur l'art contemporain, c'est quoi aujourd'hui ? Vous avez le sentiment que c'est pas assez partagé, qu'il faut vraiment aller vers le...
J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est très riche, mais qui demande, qui nécessite une parole, une parole d'accompagnement. Donc, il y a des centres de diffusion de l'art contemporain qui ont toujours des médiateurs, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est vrai que c'est difficile. On a une richesse de langage, des mondes complètement différents. Et je crois que ça, c'est en fait une belle richesse. Mais pour les expliquer aux gens, il faut absolument une parole d'accompagnement. Et ça, voilà, je pense que...
Par le biais de cette association, c'est imaginable du coup ?
Bien sûr, puisque c'est déjà prendre en compte l'espace public. Donc c'est prendre en compte comment une œuvre, quand elle est située à l'extérieur et en dehors d'un lieu classique d'exposition, peut être appropriée par les gens du quartier, de la ville, les enfants, tous les âges. Ce n'est pas l'idée d'une sculpture ornementale qui viendrait simplement décorer. C'est une œuvre peut-être ludique, elle peut être éducative, elle peut être sonore, elle peut avoir plein de formes différentes et toucher un public très large, même un public non initié à l'art contemporain.
Donc ouais, vous parlez de médiation, donc ça veut dire qu'il faut des artistes, puis il faut aussi des médiateurs qui fassent ce travail-là. Vous avez le sentiment que c'est pas vraiment fait, à part dans des grands lieux d'exposition, mais dans lequel le public est obligé d'aller, quoi.
Il y a différentes attitudes. Je connais pas suffisamment. Je sais qu'il y a des lieux où c'est pas du tout le cas. Je sais qu'il y a des lieux où c'est très, très pris en compte. Je pense que de manière générale, c'est très, très pris en compte. Il y a toute une littérature vraiment intéressante qui est publiée aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que l'art et qu'est-ce que c'est que la démocratie et comment les deux peuvent communiquer et s'enrichir. Enfin, comment les questions théoriques de l'un et de l'autre viennent s'enrichir. Par rapport au rôle des artistes, puisque moi c'est plutôt là que je me situe, même si j'ai fait de la médiation dans mon parcours, je pense que ça peut être un engagement fort de l'artiste, ça peut être compris comme faisant partie du travail, d'avoir un dialogue. Ou...
Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, enfin, partagez peut-être une impression, en tout cas c'est celle que j'ai, que l'art est plus que nécessaire pour, en termes de valeur, en termes d'approche, d'autres regards.
Oui, tout à fait.
Que ça favorise aussi l'émancipation des gens et que ça, c'est pas forcément bien considéré. Enfin, c'est pas intellectuellement, les gens n'ont pas forcément compris que c'était nécessaire à leur vie.
Mais c'est-à-dire que pour ça, il faut vraiment comprendre que la différence est une richesse. Et je crois que c'est le fondement. On parlait de démocratie tout de suite. C'est le fondement d'une démocratie. C'est des différences qui travaillent ensemble pour vivre ensemble. Et donc.
Mais comment je fais? Comment je fais moi public quand je vais dans une expo, dans une salle où je vois des cartons, des assemblages de briques, de la terre, des poubelles assemblées et qu'on me dit voilà, ça c'est de l'art. Comment je fais moi pour comprendre si j'ai pas toutes ces entrées, toutes ces notions, toute cette culture derrière qui des fois me permet de faire cette abstraction et d'essayer de trouver ou de comprendre ce que l'artiste a voulu dire.
Moi, je dirais faire appel au regard de l'enfance. L'enfant, quand vous l'accueillez, il est capable de voir des formes sans que vous lui disiez ça c'est ci ou ça c'est ça. Les gens attendent beaucoup qu'on leur conceptualise, qu'on leur dise ça c'est ça et ça veut dire ça. En vérité, je crois qu'il faut savoir user de sa liberté et puis se surprendre par le regard et ensuite, pourquoi pas, venir interroger les artistes ou les ouvrages concernés qui peuvent entraîner un deuxième regard.
Mais le monde est cartésien quand même. Le monde est très cadré, très logique. On n'arrête pas de nous dire bon, les choses sont et puis ordonnées. Oui. Et donc il faut donner des recettes ou faire essayer d'amener les gens à sortir de ce cadre, de se libérer et de faire appel à leur imaginaire. Comment vous y prenez vous en tant qu'artiste pour faire ça?
On produit pas une œuvre dans le but de susciter une telle ou telle type de réaction. Maintenant, même si on s'y intéresse énormément, évidemment, mais tout simplement, j'ai envie de dire, en produisant, en assumant la différence qu'on a, malgré les mauvais retours, malgré la surprise des gens, leur refus parfois de dire ça, moi j'aime pas et ce type d'art ne m'intéresse pas. Il faut continuer quand même, proposer un dialogue. Et que ce soit quand c'est un médiateur spécialisé ou un artiste qui accueille quelqu'un dans son atelier, je pense que c'est toujours, il y a toujours possibilité de rencontre. On essaye en tout cas. Il faut toujours simplement se maintenir, assumer sa différence et puis la proposer. Je pense que c'est la chose essentielle à faire, tout simplement.
Et ce travail-là se fait avec votre compagne, Julie Salberbeau, qui elle est plus sur le monde de la peinture. C'est plus son univers. Mais comment elle le travaille aujourd'hui? Parce que c'est pas des grandes toiles qu'on va voir, etc. Qu'est-ce qu'elle propose?
Elle propose des choses qui sont grandes. Elle propose des choses qui sont au mur, qui jouent sur la modulation de transparence. Elle propose des choses qui sont pas sur les supports conventionnels.
Alors là, je suis sur le site. Est-ce qu'on va retrouver, par exemple, cumulostratus, voiles sucrées, des choses comme ça?
Alors oui, il y a des voiles sucrées. Ça, c'est des polystyrènes. Là, c'est plus le travail à Julie, pour le coup, c'est le mien. C'est des récoltes de ces objets polystyrènes qui jonchent nos poubelles et qui moulent nos objets de consommation et qui sont recouverts d'un voile de pâte sucrée. Et
ça se mange?
Oui, ça se mange, tout à fait.
Le polystyrène, pas bien.
Pas bien, non. Voilà. Les rats le mangent. D'accord. Donc on peut voir des choses sur un site internet avant d'y aller ou pas du tout?
Non, il y a un site internet qui est en construction. On a envie de bien soigner ça, donc on prend notre temps et on a envie de simplement d'inviter les gens à passer. On est ouvert tous les jours et en dehors des horaires, on a laissé un numéro de téléphone sur la porte pour accueillir les gens même en dehors de ces horaires. On habite pas loin et on est toujours enchanté d'accueillir. On a déjà accueilli plusieurs classes et ça a provoqué aussi un travail avec l'école des Terres Bleues, Amande, que Julie est en train de réaliser actuellement. Et voilà, on espère qu'on va continuer à accueillir des gens. On sait qu'il n'y a pas énormément de gens à passer, mais même quelques personnes, quand il y a un dialogue, on est toujours heureux de l'avoir.
D'accord. Donc votre travail, c'est un travail qui n'est pas statique, qui évolue en fonction,
tout à fait.
De la société, de vos rencontres, de vos sensibilités, des matériaux.
Oui.
Aussi.
Oui, tout à fait. Puis de des événements. Là, je sais que depuis le vernissage, l'exposition au rez-de-chaussée, ça ressemble plus du tout à ce que c'était. Il y a eu quelques réactions par rapport.
Il y a eu des réactions par rapport à la Mostra et à ce que vous avez montré.
Oui, des bonnes réactions.
Ouais.
Mmh. Oui, sur les personnes quel genre, que j'ai rencontrées.
De quel genre?
De la curiosité, de l'envie de savoir, de l'envie de comprendre. Des gens qui étaient à la fois chez les enfants, les lycéens, et puis quelques personnes demandent qui sont attentifs aux propositions plastiques qui sont produites dans la ville et qui se sont déplacés pour le vernissage, m'interroger, me questionner. Il y a un projet de résidence avec le lycée Pétavin qui va peut-être se faire. Il y a des choses intéressantes à construire. Ouais.
Bien. Bon, c'est bien. Donc on peut toujours voir cette exposition donc jusqu'au 6 juin.
Oui, tout à fait.
2014. Il y a un petit mot sur la porte pour vous appeler si vous êtes par là.
Voilà, exactement.
Faut pas hésiter.
À vous rencontrer.
De jeunes gens très sympathiques. Voilà, moi j'aime bien ce travail. Je trouve que c'est il y a de l'intelligence, il y a de la réflexion. On peut ne pas aimer, mais faut aller voir quoi. Ça nous enrichit. Donc merci beaucoup. On va faire une petite coupure musicale tout de suite. De l'accordéon avec Ghost Town. À tout de suite.
A down of black coffee in my vision stay misty sea, sticky like toffee and my girls stay cross and me, cause I don't know the cost of me. I'm living this life like this mission is lost to me. I'm 20% still not paying my rent, but I'm staying on bent and I'm swaying on my fence. I'm undecided. I'm at the place where I'm residing, which the government provided. So why you try to hide it? I'm like 20,000 under, and every time I blunder I wonder when I light the sky up with the thunder. I'm singing like Columba as I waken from my slumber. Says it's like the lottery, you pick a random number. Welcome to the twilight, checking out the sky. Like, checking out the nightlight, checking out my eyesight, deteriorating, lost in my own delirium, delirium, living inside the aquarium. So breathe in with me and let's see what the story is. Skip through the good part and get to where my glory is. Emerging victorious, so that much is obvious. It's hard to be a real man in this rap land, misogynist. Hard to keep moving as I'm walking through the foggiest. Hard to keep moving as I'm walking through the foggiest. The waters, taking a step you never thought of. Stored in the back of my mind like some sort of art exhibition with some parts looking missing. And I'm talking to you. Your mind, but it just passed you to listen. So hot, what you spitting as you sitting reminiscing. And I spark my ambition and reload my ammunition. In the dark, I would glisten like a poacher going fishing. I spark my ambition and reload my ammunition. In the dark, I would glisten like a poacher going fishing. I spark my ambition and reload my ammunition. In the dark, I would glisten like a poacher going fishing. I spark my ambition and reload my ammunition. In the dark, I would glisten like a poacher going fishing. I spark my ambition and reload my ammunition. In the dark, dark, dark.
raking up your dirty bacon, paying double for your ration, mashing up your dirty cash and fashion shows it when you're faking, shaking fists up in my breaking patience. Don't you know I'm pagan, making bridges like a mason, placing pieces on my chest, but gets more stronger by the hour. Tasting sweet and sour, shower spits up on my flower. Cover from the residence, the kings and queens and presidents, bring me to one swallow, solo, break my bones, I'll lose control into my roots. I'm heathen, breathing life into the season, leaving traces of what I'm believing, traces of the goal I'm leaving, steaming up the life I'm leading, feeding from the world I'm leading, heeding no advice I'm needing, fearing that nobody is steering.
48 FM Le Mag.
Voilà, donc on va prendre la suite de cette émission qui est un petit peu space, puisqu'on a des bugs informatiques importants. Voilà, mais ça ne va pas nous empêcher de parler, d'accueillir nos deux nouveaux invités, Bruno Calandini et Thierry Bousquet. Alors bonjour, Bruno Calandini, on vous présente plus ?
Bonjour.
Reporter, photographe, vidéaste, droniste, on dit ça ?
Oui, c'est un
droneur.
Non, droniste, c'est pas mal, ça sonne mieux, non ? Mais bon, c'est pas encore dans le Larousse, ça. C'est pas que je sache.
D'accord.
L'an prochain.
Donc Bruno Calandini, vous êtes reporter depuis de nombreuses années. Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret ?
J'ai 48 ou 9, je sais même plus.
49, 65 ?
Ouais, 65.
Ah, bonne année, c'était bien. 49,
ouais.
Ouais, vous êtes en 49e année.
Ouais, voilà. C'est ça.
Alors vous avez fait quoi, en fait, d'abord parisien ?
Non, en fait, j'ai grandi à Toulon, j'ai fait mes études à Avignon, j'ai passé 6 ans en Bretagne où là j'ai découvert la photographie et j'ai été assistant dans un studio publicitaire, donc ça a été mon école. Et puis de là, quand je me suis dit que pour avancer, essayer d'atteindre un niveau supérieur, ça passait certainement par Paris. J'ai pris mes valises et je suis allé m'installer. Et j'ai vécu 15 ans, en fait.
Vous avez travaillé pour des agences, des médias, fait des reportages photos.
Ouais. Là, j'ai vraiment. J'ai continué dans la publicité. C'est une bonne école dans laquelle on apprend vraiment à maîtriser la technique, les éclairages, etc. C'est un peu incontournable. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et de là, je suis passé à la mode, j'ai fait plus du journalisme, du reportage, plus d'investigation, jusqu'au people, jusqu'à plein de choses, en fait. Et j'ai beaucoup aimé évoluer comme ça à travers tous les milieux de la photographie, quoi.
Je savais pas que vous aviez me passé de paparazzi, en fait.
Eh non, c'est, faut pas dire ce mot-là.
Alors, paparazzi, ça rime avec la Corse, ça, non?
C'est plus l'Italie, mais bon, c'est pas loin.
Ah bon.
J'ai travaillé pour des agences de presse people, donc c'était plus sur du rendez-vous, en fait.
Quel type d'agence, par exemple, qu'on connaît?
À l'époque, moi, j'ai été salarié d'une agence qui s'appelait Hugo Press, mais qui est pas super connue, mais j'ai vendu des images via SIPA, SIPA surtout, en fait. Et donc, dans le domaine du portrait, ça m'est arrivé de faire des rendez-vous sur des tournages de films, dans des hôtels, pour des personnalités qui passaient, Johnny Depp, Zidane, Aznavour, quelques personnes comme ça.
D'accord.
J'ai eu l'occasion de
photographier. Des personnalités, quoi.
Oui.
Alors, on vous connaît, nous, depuis 2004.
Oui.
Arrivé en Lozère, création de Studio Nature, c'est une association, c'est quoi ?
Non, c'était plutôt une entité au départ. Voilà, quand je suis arrivé en Lozère, en fait, après 15 ans à Paris, j'ai découvert le département en faisant un reportage sur les cavaliers pêcheurs. Je travaillais
aussi. Cavaliers pêcheurs.
Ouais, c'était un.
Mais pêcheurs dans quel sens ?
Pêcheurs à la mouche.
Ah bon ? Je croyais.
Et c'était.
Je croyais parce que c'est les cavaliers ils montent à cru, c'est pour ça.
je parlais pas de ça. Non.
Du coup, les pêcheurs.
Pas des pêcheurs à cheval non plus.
Non, c'était un reportage en fait qu'on m'avait commandé à un magazine parce que je travaillais pas mal sur les sports de nature et du coup je me suis retrouvé en Lozère au printemps à accompagner des gars à cheval qui guidaient des pêcheurs venus des quatre coins de l'Europe et là c'était le coup de cœur, ça faisait un moment que je cherchais un endroit où m'installer, quitter Paris avec mes enfants en bas âge et la Lozère
après avoir vu les belles images de Lozère les photographies de tes enfants parce que je crois que tu as beaucoup photographié tes enfants sur
le département
sur les Cévennes tout ça
ça a été mes modèles de prédilection
Droit à l'image et donc tombe amoureux de la Lozère, tu t'installes en Lozère, tu crées quelques expos. Alors une très belle expo qu'on a vue et qu'on a diffusée aussi, c'est Sauvage, qui a eu aussi le mérite d'être publié, hein, sur un...
Oui, Sauvage a été un très gros projet. Au départ, c'est parti d'un test pour Nikon France qui voulait annoncer son nouveau vaisseau amiral. Et je me suis retrouvé au Botswana pendant 20 jours.
À tester cet appareil
ouais, numérique. Voilà, pour un magazine et pour Nikon. Donc voilà, c'était un très très gros projet. Et ça a été exposé tout de suite après dans le plus grand festival nature en France, c'est le festival de Montier-en-Der. Et suite à ça, j'ai eu des propositions pour faire des livres, etc. Et c'est devenu mon projet personnel. Et je suis reparti pendant 4 ans en Tanzanie, à Madagascar, au Kenya, tout ça pour jusqu'à ce que j'ai assez d'images pour faire ce livre.
Alors ceux qui nous écoutent et qui sont avec leur ordinateur, vous pouvez aller directement sur www.calandini.com et vous avez donc des diaporamas, des photos de ce que fait ce monsieur. Et notamment Sauvage. Voilà. Donc, vous verrez la qualité de ces images extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup celle du lion, qui vous grande sa gueule avec les mouches, haute définition.
Et puis celle des
éléphants, etc. Enfin, il y a vraiment de très, très beau, très, très beau travail qu'on a exposé dans le cadre d'un festival jeune public, il y a quelques années.
Oui, à la maison consulaire. Et d'ailleurs, elles sont encore aujourd'hui accrochées au château d'Orfeuillette, qui les présente dans une expo permanente depuis 2 ans, un peu plus maintenant. Et donc, en plus, ce sont des très grands tirages. Voilà, c'est de la photo en noir et blanc, sépia, et c'est un peu particulier.
Ce grain très particulier qui te caractérise, monsieur Bruno.
Sur ce travail.
Sur ce travail. Mais aussi sur le travail photographique de portrait dont tu parlais, parce que je pense que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup.
Oui, en fait, c'est marrant parce que quand je suis parti faire ce test au Botswana, on m'a demandé de faire quelque chose d'original. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde sur les rangs pour partir sur ce projet-là. Et beaucoup étaient des naturalistes qui connaissaient le delta de l'Okavango comme leur poche et qui se sont proposés. Et
c'est en Afrique, le delta.
Voilà, au Botswana, ouais.
Botswana
au nord du Botswana, juste avant la Namibie. Et là, en fait, beaucoup de gens amenaient des photos d'animaux rares ou de choses comme ça. Et ce qu'ils cherchaient, c'était vraiment une autre dimension, voilà, plus en regard que. Et mon challenge, ça a été en fait de montrer des choses classiques et d'essayer d'en faire quelque chose de beau. Voilà. Et je suis parti plus dans l'idée de dire, je vais faire des photos qu'on a envie d'accrocher au-dessus de son canapé dans son salon que dans un livre de naturalisme. Voilà. Et ça a été le credo de ce travail.
On trouve toujours le livre en vente ?
Oui, on le trouve sur Amazon notamment, on peut le trouver, il s'appelle Sauvage au pluriel et il suffit de taper la recherche avec mon nom pour tomber dessus directement. Ouais. Ouais, on le trouve toujours. Ouais. Il a été réédité d'ailleurs une deuxième fois, il a été épuisé très vite, il a bien marché et puis donc d'abord chez Kasimbo et ensuite là c'est Erol qui m'a proposé de le rééditer. Et donc voilà, on le retrouve avec exactement...
Un très beau livre que vous pouvez acheter pour la fête des pères.
Ah, c'est pas
c'est bientôt.
Non,
je le dis,
Nico.
Je dis parce que mes enfants m'écoutent. C'est pour leur rappeler régulièrement parce qu'ils ont tendance à l'oublier. Non, voilà, c'était un petit clin d'œil. Okay. Alors Bruno, tu as beaucoup aussi travaillé pour le Conseil Général, notamment sur les plaquettes.
Ouais.
Sur la communication du Conseil Général, et ça fait ma transition avec Thierry Bousquet, donc enfin qui est pas au Conseil Général, mais qui est au Comité Départemental du Tourisme, voilà. Cool. C'est une rencontre entre tous les deux. Donc Thierry Bousquet, tu t'occupes au niveau communication au Comité Départemental du Tourisme. Tu peux nous...
Je travaille principalement sur tout ce qui est lié à la communication visuelle, donc notamment les éditions, donc tout ce qui touche à la photo et à la vidéo maintenant. Passe par moi modestement, mais voilà, je travaille et je suis quand même assez passionné par ce genre de support. Quoi. Ouais.
Donc une rencontre qui se fait avec Bruno Calandini, comment elle se fait cette rencontre ? C'est un peu par hasard ?
Un petit peu, oui, vraiment au départ par hasard, puis
Bruno, il présente son pressbook et tu dis
voilà,
wow.
Et voilà, donc je retrouvais dans son travail des images Lozère, mais avec une signature un peu particulière, avec un regard particulier. Qui de suite, à partir du moment où on a commencé à les utiliser dans nos brochures, elles ont tout de suite eu de l'impact. Et c'est vrai que petit à petit, ça s'est fait. Ça a été un mélange un petit peu professionnel et amical qui s'est installé petit à petit. Quoi, voilà.
D'accord. Et de là, donc, naît des commandes Bruno se met à faire des photographies de vététistes.
Ouais, c'est marrant parce que c'est suite à mon fameux reportage sur les cavaliers pêcheurs, celui-là il m'aura mis loin.
Tu montes à cru, ne l'oubliez pas.
Voilà, que Thierry a vu les images, je crois, dans VSD ou dans Massif Central Magazine.
Massif Central Magazine,
voilà. Et c'est suite à ça qu'il m'a appelé pour me demander si ces images étaient disponibles et qu'on s'est rencontrés en fait. Hein.
Tout vient des cavaliers, c'est impressionnant quand même.
Donc un début de collaboration assez fructueuse puisque ça donne beaucoup de parutions, des plaquettes, des affiches, ça, des programmes touristiques.
Tout à fait, ça s'est fait bon petit à petit, mais de suite Bruno a apporté cette dimension notamment sur les activités de pleine nature. Il a su nous présenter des photos vraiment très dynamiques pour les activités de pleine nature. Ça s'impose, c'est mieux.
C'est pas mal.
Mais justement, puisque on voulait, nous, l'objectif au niveau du comité du tourisme, c'était d'afficher une Lozère avec des vraies valeurs, avec des jolis paysages, mais pas un petit peu la France profonde, un petit peu perdue, où rien ne se fait, alors que bon, au niveau des activités de pleine nature, on est quand même un département qui est très dynamique et très fréquenté. Quoi.
Oui, et pas que.
Pas que.
Et pas que.
Pas que, voilà. Pas que. Ouais, ouais.
Mais c'était aussi donner une image un peu moderne, peut-être, c'est ça ce que tu veux dire?
Voilà, tout à fait. Ouais. Je me bats depuis pas mal de temps là-dessus. J'ai essayé d'apporter un petit peu, ma volonté de changer justement cette vision des choses par l'image et maintenant par la vidéo, puisqu'on a lancé l'année dernière une commande importante d'une trentaine de vidéos pour notre prochain site qui verra le jour à l'automne et pour montrer encore plus la.
Alors actuellement, on a des spots publicitaires qui passent sur les chaînes de la TNT.
Oui,
je ne sais pas si vous les avez vus.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Assez dynamique aussi, hein.
Oui.
Des images sympas.
Ils avaient été réalisés. Donc il y avait une campagne importante l'année dernière et cette année donc le Conseil général a réitéré un petit peu cette communication sur des chaînes un peu plus ciblées et c'est en cours là. Ouais.
D'accord. Alors le lien d'aujourd'hui, donc après ce travail professionnel, cette rencontre, un projet en commun.
Oui, c'est marrant que tu parles de ces clips publicitaires parce que justement, c'est lorsqu'ils sont venus tourner que j'ai vu un drone travailler pour la première fois. Donc j'avais déjà vu ce type d'engin travailler sur des paparazzi, on y revient, qui survolaient le festival de Cannes pour faire des images volées. Et c'était passé sur la 6, je crois, un reportage. Et j'avais été assez incroyablement surpris par cet engin qui était capable de faire des choses extraordinaires. Et le jour où ils sont venus tourner ces fameux clips sur la Lozère, bah, ils avaient amené avec eux ce drone et j'ai pu discuter un peu avec les gars qui opéraient avec. Et tout de suite, ouais, ça a été.
Alors, c'est quoi en fait ce drone? C'est pas un truc qui survole le Proche-Orient et qui bombarde des petits villages?
On n'a pas assez d'autonomie pour aller jusqu'au Proche-Orient.
Non, parce que quand on parle des drones, on voit derrière United States of America. Et voilà.
Tu as raison de parler de ça parce que tu vois ma fille me relatait qu'en cours, je sais plus si c'était de français ou d'histoire géo, elle avait une prof qui était profondément contre ce mot-là parce que aujourd'hui
c'est l'image qu'elle en avait, c'était ça.
Ouais. C'est tout à fait ça. Donc alors c'est vrai que bon à la base c'est un outil militaire qui a été.
Mais qui n'a pas été développé pour les militaires, si à la base.
Si tout à fait. Depuis en fait le concept date de la Première Guerre mondiale, je crois, de la fin de la Première Guerre mondiale. Ou de la seconde, je sais plus. Et enfin bref, ça date. Et donc le drone, on l'appelait comme ça parce que c'était au départ des avions cibles, des espèces d'engins qu'on lançait pour que les avions s'entraînent à tirer dessus. Et ça faisait le bruit d'un faux bourdon, le mot drone en anglais. Et depuis, on a gardé ce nom-là pour tous les aéronefs télépilotés, c'est-à-dire en gros 100 personnes à bord, on envoie un engin qui porte une charge. Donc cette charge, pour les militaires, c'est des armes. Et pour nous, qui sommes beaucoup plus pacifistes, ce sont des caméras et des appareils photo. Voilà. Voilà,
d'accord. Il faut faire la distinction entre drone militaire et drone civil. Voilà.
D'accord. Alors le drone, c'est un appareil télécommandé, piloté, hein, c'est ça?
Oui. Mm-hmm. Radio-commandé.
Radio-commandé, voilà, on dit. Comme les petits avions, comme l'aéromodélisme.
Tout à fait.
C'est le même principe.
C'est le même principe.
Sauf que là, en fait, on a des hélices à l'horizontale qui permettent de soulever une Donc on peut voir aussi hein, sur le site www.studionature.com des images sur ce que c'est qu'un drone et comment ça fonctionne. Il y a une petite vidéo aussi, je crois.
Oui, il y a, enfin bon, ça commence, voilà. Là, des vidéos en montage, il y en a 14. Ouais. Donc, bientôt, on en verra du drone. Là, il y a, c'est surtout de la photo. Et voilà, ouais, effectivement, Studio Nature, c'est le site qui, aujourd'hui, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, calendrier.com, qui est plus sur quelque chose de reportage étranger. Ouais. Voilà, un peu plus humain, en fait. Là, on est plus sur le, sur
l'aspect technique.
Voilà, l'aspect technique et, on va dire, promotion. Voilà, publicité, etc. Et c'est aussi, c'est beaucoup à ça que me sert le drone aujourd'hui, c'est à faire de la prise de vue aérienne qui permet d'intégrer des bâtiments, des hôtels, etc. Et toutes sortes d'applications techniques dont on peut parler si tu veux, qui vont avec et qui sont...
Parce que les drones, en fait, on peut en trouver chez n'importe quel marchand de jouets, quoi, hein, des petits drones. Alors, si on n'appelle pas ça des drones, non, comment on appelle ça?
Si,
des mini-drones.
Non, c'est ça reste de l'aéromodélisme, hein, mais après on donne plutôt le nom de l'engin plutôt que de parler de drone ou autre, ça dépend, mais on peut en acheter assez facilement.
La différence, c'est que toi spécifiquement, on t'appelle un télépilote.
Voilà,
c'est ça,
parce qu'après
agréé DGAC. C'est-à-dire ça que... veut dire ça.
Alors c'est lié justement là d'un point de vue juridique, le changement se fait à partir du moment où les engins sont équipés d'une caméra. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de caméra dessus, on fait de l'aéromodélisme. La législation rentre pas en vigueur.
Mais c'est limité à un plafond.
Qu'on aille.
C'est limité à un plafond quand même de hauteur. On peut pas monter, je veux dire, à 3 km avec un petit drone, quoi. Si.
Non, puisque bon, justement, c'est
ça fait beaucoup de questions.
On commence par laquelle. On commence d'abord.
Voilà. Donc, pour pouvoir, piloter, faire des prises de vue aériennes, il faut passer différents examens et être agréé par la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Voilà.
Ah, donc t'es un vrai pilote, quoi. T'as piloté un Boeing.
À part qu'il y a personne.
Personne dans l'avion. C'est
ne montez pas même si. Allez-y. Ne montez pas dans ce drone.
Il vaut mieux que ça soit comme ça. Ouais.
Donc
voilà. Ouais. Donc la différence se fait là principalement. Ouais.
Et pour répondre à ta question de hauteur, en fait, on n'est pas forcément limité par la hauteur. Aujourd'hui, la loi nous limite parce qu'au-dessus de 150 mètres, c'est le plafond qui est réservé à d'autres usagers, voilà, notamment les ULM et autres. Mais donc, la loi interdit, d'ailleurs, les drones agréés par la DGAC, puisqu'il faut passer par là aussi, sont limités d'usine, si on peut dire ça, pour ceux qui les achètent fabriqués et ceux qui se les construisent doivent le faire. Ça fait partie des normes qui font que le drone doit être bloqué à 150 mètres et n'a pas le droit d'aller au-delà. Et se pilote. Autre détail, à vue, c'est-à-dire à 100 mètres du télépilote, on peut pas aller non plus plus loin que ça pour piloter à vue. Voilà.
Alors,
après, on rentre d'autres scénarios de pilotage.
Juste si j'essaye de résumer, ce que j'ai compris, moi, c'est qu'un drone, je peux en acheter un, il n'y a pas de problème, j'en fais ce que je veux, à partir du moment où je n'y accroche pas un appareil photo numérique ou une caméra numérique.
Voilà. Pour l'instant, même si on n'est pas...
Un chien, un enfant.
Même si pour l'instant il y a peut-être un flottement au niveau de la législation, mais c'est les textes de loi sont basés là-dessus. À partir du moment où il n'y a pas de caméra dessus, on est considéré comme.
D'accord, mais pourquoi? Parce qu'en fait c'est de l'espionnage, c'est ça?
Alors il y a une autre loi qui date elle de 2007 parce que les lois dont parle Thierry, elles sont de 2012. Ouais. Donc avec l'explosion des drones, tout le monde veut mettre comme tu disais tout à l'heure, on peut acheter des drones pour pas très cher, mettre une caméra dessus et voler avec. Donc il y a déjà le respect de la vie privée, il y a une loi donc qui est bien plus ancienne qui dit qu'on peut pas aller chez le voisin le filmer à travers ses vitres.
Je peux pas aller filmer ma voisine. De mon balcon avec un drone et faire des images un peu sympa. Non, de les mettre sur le net, non, ça c'est interdit.
A priori, même sans les mettre sur le net, c'est interdit.
Mais pour ton usage personnel.
Bon, mais je vais le faire alors.
Mais sinon, après, donc, comme disait Thierry, il y a cette. Aujourd'hui, bon, avec l'explosion du drone, bon, l'espace aérien, on pense qu'il va être, vu l'engouement, qu'il va être rapidement saturé, enfin très occupé en tout cas. Donc, pour pas faire n'importe quoi, il y a des endroits où on ne peut pas voler, comme à proximité des aérodromes, des aéroports, puisqu'on met en danger les autres usagers. Et ensuite, donc, des diplômes à passer, toutes sortes d'examens, brevets théoriques. accueil de pilotes du LM. Donc on doit travailler.
C'était assez dur, Thierry.
C'est-à-dire que c'est des connaissances un petit peu générales. Donc c'était, moi je trouvais ça très intéressant.
D'aérologie.
Mais voilà, de climatologie, ouais. Climatologie. De navigation, il y a un petit peu tout, technique. Bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait adapté pour le drone, mais ça permet d'avoir des connaissances de cet espace aérien, de savoir qu'il existe des cartes aéronautiques qu'il faut vérifier, qu'il existe des zones fréquentées par les avions militaires, etc., qu'il faut respecter. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pas évident.
C'est pas si simple.
Mais c'était
donc
c'était
t'as appris le langage, tout ça. Roger ici, Roger. Voilà,
je connaissais un petit peu, j'ai appris l'alphabet.
Veuillez sortir de la zone Boeing 747.
Un peu le morse, ça c'est pratique.
Oui. Non, mais ça permet d'avoir des connaissances sur vraiment comme si, puisque bon, pour l'instant il n'y a pas d'examen spécifique, ça risque de changer. Mais là, on a fait la première étape, on a passé la première étape pour piloter un ULM. Quoi. D'accord. Donc voilà, donc c'est exactement le même examen. Quoi, voilà.
Ça peut ouvrir de nouvelles voies vers l'ULM, vers.
Éventuellement. Allez.
Donc vous avez acheté Tu as acheté, hein, Bruno,
je crois. Oui, bah on a deux drones maintenant.
Mais c'est des drones c'est des drones civils, mais pas ce qu'on trouve chez les marchands de jouets.
C'est
un drone de drone. Quoi.
C'est un drone qui permet d'emporter une charge lourde, et c'est tout l'intérêt, puisque si on veut amener des capteurs qu'on appelle, c'est-à-dire que ce soit caméra ou appareil photo professionnel, il faut pouvoir monter du poids. Voilà, sachant
une douzaine de kilos, c'est ça.
Il y en a qui sont capables. Non, moi, le mien, il peut emporter jusqu'à 1,5 kg, mais il a l'avantage d'être agréé pour voler en milieu urbain. Et ça, c'est toute une astuce, parce que en fait, si un drone fait plus de 4 kg, une fois qu'il a son capteur, ses batteries et son parachute, il ne peut plus voler en milieu urbain.
Ouais,
à 4,01 kg, il...
C'est un objet qui peut représenter une masse de 400 kg au sol, quoi, c'est ça ? En chute libre.
Ça, en fait, on est le
Égal MG, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est bien.
Ouais, je comprends rien.
Désolé, c'est une émission scientifique. Non, mais c'est pour expliquer qu'un poulard monté à 100 mètres, multiplié par, voilà, la hauteur, multiplié par, ouais, l'accélération, ouais, de la pesanteur, bah, ça fait vite mal. Du poids, quoi. Si on le prend sur la tête, je veux dire.
Exactement.
Voilà. Donc c'est pour ça que c'est interdit en milieu urbain, d'ailleurs.
C'est interdit au-delà d'un certain poids.
Et une jardinière, n'en parlons pas, Nico, si on la prend sur la tête.
C'est interdit, et en plus, pour travailler dans le milieu urbain, il faut des autorisations spécifiques auprès des préfectures. Donc ouais, ça a été fait, voilà, pour préciser exactement ce qu'on va faire et autres, pour quel matériel va être utilisé et autres.
Voilà. Ça implique un balisage au sol. Enfin, il y a vraiment plein de règles.
Une législation.
Ouais, tout à fait. Il faut les personnes qui peuvent se retrouver dans un rayon de moins de 30 mètres du drone, s'ils n'ont rien à faire là parce qu'ils sont pas concernés par les prises de vue, doivent signer une décharge comme quoi ils s'approchent en sachant que des problèmes peuvent arriver. Donc c'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on a tendance, comme tu le disais tout à l'heure, à trouver des petits drones qui sont capables de voler, c'est arrivé à Nancy récemment, hein, tout le monde a entendu parler de cette histoire du gars qui a survolé Nancy, ouais, avec un drone qui a fait des supers images mais qui a mis en danger la vie d'autrui d'après le jugement.
Oui.
Il a pris quoi, le gars?
Il a pas pris grand chose. Il a pris 400 euros d'amende, ce qui est un jugement relativement clément par rapport aux 75 000 euros et un an d'emprisionnement qui sont prévus par la loi. Ça rigole pas. Alors, je pense que bon, aujourd'hui, on est un petit peu, reste des petits vides juridiques qui seront forcément comblés, parce que aujourd'hui, des vides juridiques, il y en a dans beaucoup de choses, mais là, quand on met la vie des gens en danger, je pense les lois, elles vont se faire. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé, mais il faut être absolument vigilant sur ces vols, et on voit un petit peu des gens qui se baladent avec des drones, des petites caméras dessus, et bon, bah voilà, le jour où ça tombe dans une poussette, ça va faire très mal. Donc il faut vraiment que des gens soient conscients, raisonnables. On survole pas une foule, on survole pas des animaux, et les choses doivent se faire vraiment dans un cadre législatif précis, quoi.
D'accord. Alors vous nous proposez quoi? Aujourd'hui, vous montez, c'est pas une société, c'est.
Bon, c'est toujours sous ce studio nature qui me suit maintenant, ouais. Depuis 10 ans. Bon, pour moi, c'est une société de fait depuis peu, puisque ouais. mon épouse me sert,
me sert, tu as dit, ouais.
Bonjour, mon épouse, si tu nous écoutes.
Ouais.
On te donne le bonjour.
Désolé. elle m'aide, elle m'aide à commercialiser cette activité et donc Thierry pilote et moi mon travail c'est de cadrer, sachant qu'on se renvoie, enfin on sait faire les deux tous les deux, donc voilà.
Bah toi, par ton expérience de reporter, de photographe, donc il y a toute cette partie quand même technique audiovisuelle, on va dire, et puis il y a la partie technique pilotage.
Exactement.
Qui est faite par Thierry, et donc vous proposez par exemple à des collectivités, à des particuliers, vous proposez à qui en fait?
Oui.
Et quoi?
Alors, en fait, ce qu'on propose aujourd'hui, ça peut être à des collectivités, effectivement. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait intéresser une ville comme Mende, par exemple? On peut faire des bilans par thermographie. Donc, on peut embarquer une caméra thermique sur un drone et survoler des établissements, des maisons, tout un quartier.
Ouais, toute une zone de la ville.
Ça m'intéresse.
Tu vois?
Ben voilà.
Allô, madame Machin, vous habitez 12 rue des Clapiers. Ouais. Eh bien, là, il y a un endroit, quand même, où vous avez une perte de chaleur qui est considérable. Il faudrait que vous fassiez quelque chose.
Et GDF d'ailleurs a organisé sur certaines villes des vols et ils ont fait appel à des gens comme nous pour survoler, d'accord, filmer et voir quelles étaient. Bon, c'est une possibilité
pour l'agriculture aussi, on peut le faire.
L'agriculture, ça se fait aussi, ouais. Voilà, pour voir les parcelles qui ont pas trop de rendement. Donc ça peut aussi être un diagnostic. Les vignobles bordelais se sont équipés récemment de beaucoup de choses de drones comme ça pour survoler et pour essayer de
la
augmenter
pollution.
Le rendement. La pollution, alors là, on est dans
les rivières, non?
Alors, plus de l'air. Je sais que, par exemple, en Chine, actuellement, on fait travailler des drones sur la pollution de l'air.
Avec des capteurs aussi, ouais.
Avec des capteurs spécifiques. Ouais. Quand il y a eu le tsunami au Japon, ouais. Il y avait des fuites radioactives, on a envoyé des drones pour voir un peu ce qui se passait. Bon, j'espère qu'on ne va pas faire ça en Lozère. Nous, on reste plus...
Non, normalement, ça devrait être bon.
Nous, on est plus accès tourisme, et au niveau technique, je dirais, on peut proposer des inspections de bâtiments. Apparemment, il y a eu un problème sur la cathédrale il y a pas longtemps.
Tout à fait. Ouais.
Un drone aurait pu déceler ce genre de
problème. Le lac de Charpal aussi.
Voilà, les barrages.
Les barrages, parce que c'est très utilisé déjà.
Voilà, on peut même imaginer faire un vol à l'intérieur de la cathédrale pour examiner une voûte. Mais on peut aussi proposer ce service-là à des pompiers pour savoir d'où sont partis des feux, à des assurances pour savoir en cas d'inondation, à la police en cas d'enquête. Vous allez imaginer
que...
C'est vrai que ça a ouvert une...
Vraiment des applications multiples. Ouais. C'est impressionnant.
Quantité d'applications.
On a travaillé sur un projet concret avec l'association de Saint-Julien-du-Tournel, qui, eux, avaient dans l'idée, ils avaient d'ailleurs déjà lancé un devis pour faire installer un échafaudage tout autour du château, pour en faire une photographie, c'est-à-dire une expertise pour pouvoir demander des subventions. Et nous, on prenait des images, ils sont venus nous voir, on leur a proposé une prestation, et on a pu s'en toucher. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce que le drone ne touche pas au patrimoine, on s'en approche vraiment à quelques centimètres, mais on ne le touche pas.
Il n'y a pas d'impact.
Il n'y a pas d'impact. Mmh. Et on a pu leur faire 25 photos de très bonne qualité, et tout ça en 3 heures de temps, quoi. Voilà.
Oui, donc, c'est on gagne du temps, il y a moins de déplacements.
Ben là, monter un échafaudage au château du Tournai, je sais pas si tu vois ce que ça peut faire, mais c'était très très compliqué.
Est-ce que ça peut coûter?
Très coûteux. Et là, c'est vrai que l'avantage dont je te parlais tout à l'heure d'un drone qui peut emporter un gros capteur, c'est que j'ai pu livrer des photos en très haute définition, ouais, dans lesquelles ils ont pu zoomer. Et bon, on pouvait compter les fourmis sur les cailloux en haut du château. Et ce qui était marrant, c'est que l'architecte qui vivait au pied du château, qui était le commanditaire de ce travail-là, était avec nous pendant la prise de vue, donc il y a un retour sur écran. C'est ça, c'est marrant, parce que les gens ne comprennent pas toujours trop comment ça se passe. Donc le drone décolle, on a un écran au sol, et sur cet écran on a un retour vidéo de ce que voit le drone.
D'accord.
Et donc quand on déclenche, quand on déclenche, on voit la photo qu'il prend.
C'est comme ça que tu m'as vu la dernière fois
faire du ski à Charpal.
Faire du ski, hein. C'est comme ça que t'as remarqué que je faisais du ski, que j'avais une technique de malade. Si t'as besoin de figurant,
je suis habillé, donc.
Non, mais c'est vrai que aussi, ça peut être intéressant.
Moi, ça me questionne, ça, parce que tout à l'heure, Bruno,
oui,
tu disais que, qu'il y a des zones de 30 mètres, j'ai entendu ça, ouais. Une zone de 30 mètres est prévue par exemple pour survoler, pour prendre vos images, donc ça c'est bien, mais comment les gens ils savent qu'ils rentrent dans une zone qui est filmée par un drone?
Elle est censée être balisée en fait.
Elle est censée être balisée avec quoi?
Donc nous, avec la rue balise.
La rue balise, d'accord, c'est pas le trèfle, c'est un drone.
On a acheté 4, on a acheté 4 cônes avec... avec de la rubalise et on le marque au sol et donc ça nous permet d'avoir une zone de travail zone, donc
d'accord
et de tenir un peu puisque bon c'est vrai que c'est
électrifié pour les animaux
oui tout à fait
les animaux et les enfants vous inquiétez pas mesdames vos enfants resteront à l'écart
mais c'est à dire que c'est vrai qu'avec l'utilisation on s'aperçoit que c'est un sujet qui plaît beaucoup. Et qu'à chaque fois qu'on travaille quelque part,
ça attire plein
de minutes, il y a énormément d'enfants, de personnes qui
Je pense que c'est un côté extrêmement ludique. D'abord parce que c'est de l'aéromodélisme en soi, puis ça attire. Et puis je pense que le fait de combiner de l'imagerie et ce côté ludique amène une autre dimension qui est extra, quoi.
Oui, les gens ont envie de voir tout de suite ce qui se passe sur l'écran. Comment
est-ce qu'il y a eu des images qu'on a vues qui étaient filmées avec un drone sur les spots publicitaires là, du CV?
Oui. Il y en a plusieurs. Il y en a Charpal.
Celles qui survolent notamment le...
Il y a le golf, il y a des images de golf, il y a des images
c'est ce qui me semblait.
Des images de canyoning qui ont été prises par...
Des images de chevaux aussi.
De chevaux aussi.
On voit trois chevaux galoper comme ça qui vient du soleil.
Donc si vous regardez ces spots qui sont pas mal faits...
Mais ça apporte de suite une autre dimension, même d'un point de vue graphique. Un golf vu d'en haut avec
on voit tous les trous.
Non, mais c'est vrai que ça apporte.
Souvent, la tonte est un petit peu particulière avec et c'est vrai que d'en haut, ça se voit bien.
Donc voilà ce que nous propose Studio Nature avec Bono Calandini et Thierry Bousquet. Ce télépilote. Moi, je crois qu'un télépilote, c'était un mec qui était là-bas au Maroc et qui répondait au téléphone,
non? Non, pas tout à fait. Non,
c'est le terme agréé déjà. Voilà.
Exactement. Ouais. Donc, je reviens là-dessus. Donc, juste pour rester sur la législation, parce que c'est important et ça, c'est quelque chose de primordial.
Oui, il faut primordial dire qu'on ne peut pas faire ça n'importe quand, n'importe comment. Demain, j'achète un drone, je mets une caméra au bout et je survole la ville et je fais des photos de paparazzi. Ouais. C'est pas possible, tout ça.
Non, surtout que j'habite pas très loin de chez toi et bon, ça me fait pas rire du tout.
Voilà. Le plus simple, il existe donc plus que au niveau du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Il y a une liste officielle de tous les exploitants donc d'activités particulières, puisque c'est le terme. Il y a une liste officielle. Donc, à partir du moment où les gens sont agréés, ils figurent sur cette liste. Et seules les personnes habilitées à pratiquer cette activité sont sur cette liste. Voilà, c'est assez simple. Après, derrière, il y a une législation un peu lourde, mais bon, si...
Donc, si je me marie et que je veux faire des vidéos par un drone, par exemple, ce week-end ou dans quelques jours, par exemple, être survolé, tout ça, faire un truc sympa, je tape dans cette liste.
Ça
peut être un annuaire aussi. Oui, ça peut permettre de vérifier si la personne est bien habilitée, mais ça peut être un annuaire pour rendre recherche
parce que
un prestataire.
Les personnes qui demandent à un prestataire d'intervenir, donc un prestataire drone, sont responsables quelque part de ce qui pourrait arriver. Donc en gros,
c'est le client qui est responsable.
Il est censé savoir qui l'emploie.
C'est la législation en général.
Tout à fait.
Quand tu prends un entrepreneur pour construire ta baraque, c'est pareil. T'es responsable.
On le résume un peu à ça, c'est que le faire appel à quelqu'un qui n'a pas l'agrément donc DGAC, c'est quelqu'un qui travaille au noir. C'est un peu dur à dire, mais c'est un peu ça.
Dans le noir.
Et puis on ne sait pas s'il respecte la réglementation. Voilà, c'est ça qui est important vu les utilisations multiples qu'on a pu.
Donc faut bien rappeler à nos auditeurs que c'est une activité qui est réglementée, qu'on peut pas faire ça comme ça tout seul, que ça nécessite des autorisations, une législation et des compétences que vous avez.
Oui.
Voilà, avec à la fois les compétences vidéo, audiovisuelles, de reportage. Et puis cette compétence particulière que tu as Thierry avec ce diplôme.
Bruno là également.
Et Bruno
mais
aussi,
c'est vrai que quand on parlait d'examen théorique, il y a un examen aussi pratique. C'est une semaine de pilotage.
Est-ce qu'il y a des comme ça se fait sur un certain nombre, notamment sur les permis de conduire pour les transports en commun, est-ce qu'il y a des piqûres de rappel de ça? Est-ce que le gars qui aurait son diplôme, au bout de 10 ans, s'il ne l'utilise pas...
Alors aujourd'hui, la législation est encore un peu verte pour ça, mais on parle au quotidien de nouveaux diplômes qui seront typiquement pour les dronistes. Et là, il n'est pas exclu, effectivement, qu'il y ait ce genre d'examen régulier pour voir un peu... Parce qu'en plus, les machines évoluent tellement, bon, plutôt dans le bon sens, ça deviendrait plutôt de plus en plus facile parce qu'il y a des assistances altitude GPS, etc., qui permettent de piloter avec un peu de confort. Mais voilà, je pense
la portée moyenne d'un drone, c'est quoi entre le télépilote et son drone? Ça dépend de l'émetteur, c'est ça?
Exactement. En
vous
fait,
êtes limité quand même,
oui, nous, comme je te le disais, notre activité consiste à travailler à 100 mètres du drone et à 150 mètres d'altitude maximum, d'accord? Ça, c'est le scénario qu'on appelle S1 et S3, qui sont soit à la campagne, soit en S3 en ville. Et il existe entre les deux un scénario S2, qui permet de faire ce qu'on appelle du FPV, c'est-à-dire de décoller et de partir avec, donc, à l'aide de grosses antennes, on garde le contact avec le drone. Le drone peut aller jusqu'à 2 km et là, partir se balader. Donc, ça, c'est plus des drones qui ne sont pas des hélicoptères, comme le nôtre, qui est fait plutôt pour travailler en stationnaire au-dessus d'un site. Ouais. C'est plutôt des drones qui sont utilisés pour surveiller les frontières, pour surveiller des côtes, pour surveiller des forêts contre les incendies, etc. Voilà. Et là, ce sont plutôt des avions avec une petite caméra devant, et là, on les balance, et eux, ils partent, ils font des kilomètres, et ils couvrent des grandes zones. D'accord. Voilà. C'est des drones aussi, mais qui sont utilisés différemment, et c'est d'autres styles d'engins.
Dernière petite question, les coûts là-dedans, ça représente quoi, par exemple
L'achat d'un drone, tu veux dire?
Non.
Le coût d'une prestation.
Bah, faire appel à vous, par exemple, je suis une collectivité, je veux faire un film ou un reportage ou un zonage architectural.
Ouais, c'est autant passé.
Voilà, d'accord, c'est autant, à l'heure.
C'est autant passé, sachant que bon, certaines personnes disent aujourd'hui, voilà, moi l'heure, je la vends tant et c'est au nombre de photos illimitées. Moi, je considère qu'en une heure, si on veut travailler proprement, on fait pas plus de 3 ou 4 photos, quoi. Voilà, différentes, retouchées, nickel, livrées parfaitement. Ça peut être à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Sachant qu'en vidéo, il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est le nombre de décollages, c'est la difficulté de si on nous demande de voler en forêt ou au-dessus d'un lac, c'est plus compliqué que de faire des prises de vue classiques. Donc voilà, de toute façon, sur le site Studio Nature, il y a des tarifs également. Ça démarre à 180 € pour un particulier qui veut faire une photo de sa maison, soit parce qu'il veut la vendre, soit parce qu'il veut un souvenir. Ça, c'est le tarif de base.
Soit parce qu'il veut architecturalement la transformer et faire en 3D après une extension.
Exactement.
Ou des choses comme ça. Hein.
Voilà. Et après, à partir du moment où ça devient une utilisation commerciale, que ce soit un hôtel, un gîte ou un suivi de chantier ou des choses comme ça, bah, c'est plus autant passé au nombre de photos, c'est un espèce de compromis là-dessus. Et la vidéo, c'est sûr de vie parce que c'est vraiment trop différent d'un boulot à l'autre, donc on est obligé d'étudier un petit peu les...
D'accord, c'est du sur-mesure.
Ouais, c'est du sur-mesure. D'accord. Ouais, la vidéo, c'est vraiment... Il y a plein de paramètres.
En tout cas, sur votre site www.studionature.com, il y a beaucoup de choses, hein, donc n'hésitez pas à les regarder, ce qu'on peut faire, les photos qui ont déjà été faites, les propositions qui sont faites, voilà, c'est assez complet. Hein.
Ouais. Et puis il y a une rubrique news où je mets un petit peu tout ce qui se fait. Là, je viens de livrer un film au batelier des Gorges du Tarn. Bon, il n'y a pas de drone dedans parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre, ils en avaient besoin cette année pour communiquer. Mais bon, c'est un film qui est un film de 3 minutes avec lequel aujourd'hui ils communiquent eux, ils l'ont mis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, voilà, le genre de vidéo qu'on propose nous, c'est plutôt du format court. Et si possible de la belle image, on est vraiment attaché à faire des choses esthétiques.
Oui, mais je crois que c'est votre plus-value.
C'est aussi par goût. Mais bon, le drone apporte tellement d'opportunités sur le plan technique, d'inspection, de tout ce qu'on veut.
Potentiel énorme.
Voilà, il y a un potentiel énorme et ça, on veut pas se priver de le faire. Et puis Thierry, donc c'est peut-être plus sa branche. On travaille tous les deux, évidemment, de concert tout le temps. Mais à tous les deux, on est complémentaires entre l'aspect, on va dire, artistique, entre guillemets, d'essayer de toujours chercher la lumière, les angles, etc. Et le côté technique, où on va vraiment essayer de ramener de la haute définition à des gens qui en ont besoin. Et s'il faut un poster d'1,50 m d'un pilier d'un viaduc, pour voir s'il est fissuré, on sait le faire.
Voilà. Super, plein de compétences, on le verra. Le monde est petit, mais finalement, c'est concentration de savoir-faire.
Oui, c'est exactement ça, qualité. La Lozère.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On sera amenés à se revoir avec peut-être d'autres expériences que vous avez faites, ce que vous faites.
N'hésitez
pas à nous recontacter. Puis on se fera un plaisir de vous accueillir dans cette émission. Merci. Ou dans une autre émission. On va faire une petite coupure musicale et après on passe à l'agenda. À tout de suite.
Oh yes, me friend, yeah. Mm-hmm. Yeah. Have you got your skanking shoes? Deep progress, official skanking shoes seller. Don't let the fashion toot ya. A fun pop soul. I need a club, I need a vibe, I need a mic in America, and I need a crazy selector so rougher than them. A dirty dance, I'll tell them again in the morning. Yes, we warm up my body when Paris is burning. I need a belly smelly spree, come and sing without me weed. I need a meditation time, my dread keep the screen. Wrong in my bottle and me like it with nothing. What's up with my shoes, man? Serious thing, let's see what kind of shoes they got in the legal corner shop. Good smoke and rock, steady stock and one joke. Feel how it move up your feet from the ground. We need a good night to swagger on. There is no reason for the bad, just if it will jump up. So never let the scammer do the job. If you just sit up and just sit up nice, a rude boy. Skanking, that's the way you put. We are skanking. Spoil up your foot, just skanking. Put on your skanking shoes. Alright, my friend. Skanking, that's the way you put. We are skanking. Spoil up your foot, skanking. Put on your skanking shoes. Practicing the beat killing, feeling the violence, feeling like a magazine when sickness came over me. Oh, what a fever! Sickness came over me. Oh, what a fever! Risen up to take it to my destiny. Mix up the dance of my job, it's my favorite. I like to do it cool, busy in jewelry. Now man, tell me sweet if you nice up my mood. And my body, so my shoes, me depend on. Skank it and light down. Quality prevails, that my deep rooted position. Now matter planking, smooth feet, I skank it. Real bubble. Yes, your foot, I feel of it. Have you got skanking shoes? Deep progress. Official skanking shoes, seller. Have you got skanking shoes? Mine brothers. F5-pop skanking shoes, maker. Skanking, that's the way you put. We are skanking. Spoil up your foot, man, skanking. Put on your skanking shoes. Oh, yeah. Skanking, that's the way you put. Man, we skanking. Spoil up your foot, just skanking. Put on your skanking shoes. Alive. I need a club, I need a vibe, I need a mic in my gun. I need a crazy selector, so rougher than them. A dirty dance, I'll tell them again in the morning. Yes, we warm up my body when Paris is burning. I need a relish, relish, please be coming. I sing with that, me read. I need a meditation time, I dread give the spin. Bro, me in my bottle and me like it with nothing. What's up with my shoes, man? Serious thing, lad. Let's see what kind of shoes they got in the liquor corner shop. Roots, rock and rock, steady sky and one job. Feel how it move up your feet on the ground. We need a good not to swagger one. There is no reason for the bad, just if it will jump up. So never let the scammer do the job. If you just sit up and just sit up nice, oh.
FM Le Mag.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Donc, j'espère que ça vous aura plu malgré les quelques petits problèmes techniques que nous avons. Elle sera rediffusée jeudi à 18h11 et samedi à 11h. Sinon, vous pouvez la retrouver sur notre podcast, donc 48FM Le Mag, sur www.48fm.org. Tout de suite, l'agenda culturel jusqu'à lundi prochain. Bonne semaine.
L'agenda culturel du mardi 20 au lundi 26 mai 2014. Donc mardi 27 à Villefort, de la musique avec l'Orchestre National de Montpellier avec Quatuor Degli Amici, un ensemble baroque accompagné d'une chanteuse lyrique. Ce sera à 20h30 avec un tarif de 10 euros, 8 euros et 5 euros pour les enfants et c'est à partir de 6 ans. Et c'est organisé par les Scènes Croisées de Lozère. Mardi toujours, à l'Espace des Anges à Mende, spectacle d'humour avec Patrick Bobine, il s'appelle Le Naturaliste. C'est un spectacle loufoque où Patrick Bobine nous emmène dans un voyage en ballon au-dessus du monde pour une virée au large de son imagination et de sa fantaisie.
Un spectacle complètement barré qu'on a vu en Avignon. Très très bon spectacle, plein d'humour, de finesse, voilà.
Et donc c'est à 20h30 à l'Espace des Anges pour un tarif de 12 euros et de 8 euros à partir de 11 ans. C'est organisé par la ville de Mende.
Mercredi 28 mai à la Jeannette Verte à Florac du cinéma avec Dallas Buyers Club. Voilà un film assez sympathique, assez original. À 21h à partir de 12 ans et c'est organisé par Cineco.
Du 29 au 31 mai, le Festival d'Olt au Bléma. Oui, grosse semaine. Organisée donc par l'association Route Boy Crew. C'est un festival de musique qui propose des concerts sous chapiteau, des spectacles de rue, de la danse,
des animations.
Beaucoup d'animations. Ça commence donc jeudi à 21h avec donc le concert de Sarah Olivier en trio, Kakaraoke et Catfish à partir de 21h.
Alors tous ces spectacles, les spectacles de rue sont gratuits ?
Oui, les spectacles de rue sont gratuits. Les spectacles en soirée sont d'un tarif de 15 euros et de 13 euros. Et il y a aussi un pass 3 jours, donc de 35 euros en tarif plein et de 28 euros tarif réduit.
Voilà, vraiment. Et c'est organisé par l'association Route Boy Crew, qu'on connaît très très bien. Kiviki, d'ailleurs, la radio 48 FM sera partenaire puisque nous couvrirons le jeudi soir, donc en direct le 29, nous couvrirons toute la fin de l'après-midi et puis toute la soirée. Le vendredi 30 mai, toujours au Blémar, donc sur ce festival toujours de la musique, avec dans la journée des spectacles de rue, avec Tempête, mais pas ça dans ta bouche, voilà, ça en dit long. Puis de la danse entre les lignes et aussi de la musique avec Michi Beach Bar, Jürgen Douglas, The Summer Rebellion, Dino, The X et Cutsby Earthshot. À partir de 15h30, donc au Blémar. Ce sont à peu près les mêmes tarifs, hein, voilà, oui, à la journée. Et puis, c'est intéressant de prendre ce pass, voilà, pour les trois jours. On peut même dormir là-bas si on veut. Il y a un terrain de camping.
Tenu par l'association, là, comme je te pousse.
Tout à fait, qui est en train de s'installer. Toujours l'association Route Boy Crew.
Et ensuite, donc le samedi 31 mai, toujours au Blémar, des spectacles de rue, donc avec Ma vie de grenier ou encore Secteur Postal 212. Qui est proposé par la compagnie d'Andy Manchot, qu'on retrouvera dans la prochaine saison culturelle de Route Boy Crew. De la musique aussi, toujours le soir, avec Slobodan Experiment, The Cambodian Space Project, Orman, or Astroman.
Ah, alors, The Cambodian Space Project, ils sont vraiment des Cambodgiens, hein, c'est de la musique rock cambodgienne. Une programmation très éclectique à partir de 15h. Et ensuite, vendredi 30 mai, au café associatif de la Girafe Ronde à Marujol, on vous en a déjà parlé, donc qui a démarré sa programmation. De la musique avec What Washington Wants, un concert de trois musiciens entre folk, blues et rock, des murmures aux cris. Le groupe exprime sa rage de vivre avec une musique assez rock. À 21h, entrée libre, on peut être adhérent, c'est mieux, donc on peut prendre sa carte à cette association. Au café associatif organisé par la Girafe Ronde à Marujol.
Bonne semaine culturelle à tous.
Bonne semaine à tous.